automobile.
Chronique automobile.
Radiophonie.
J'ai entendu. Ping. Ah ben voilà.
Ah,
oh,
ciao.
Et en mode. Ça m'a pas entendu.
Voilà, chaque météo comme ça.
Très bien, madame. Comment voulez-vous?
Automobile et radiophonique de l'info kiosque. Rendez-vous hebdomadaire avec l'info kiosque dans De bruit et de fureur sur Radio Usine. S'il m'arrive de parler des théories modernes relatives aux partisans, il convient de souligner pour la clarté de l'exposé qu'il n'existe à vrai dire pas de théorie ancienne sur le partisan à opposer aux théories modernes. Le droit classique de la guerre, inclus dans le droit des gens européens de naguère, ne laisse pas de place aux partisans au sens moderne. Ou bien celui-ci est, comme dans la guerre du XVIIIe siècle, qui est une affaire entre cabinets, une espèce de troupe légère, particulièrement mobile, mais régulière. Ou bien il est un criminel particulièrement méprisable, et il est alors tout simplement un hors-la-loi. Aussi longtemps que la guerre impliquait encore quelques notions d'un duel chevaleresque à armes découvertes, il ne pouvait d'ailleurs en être autrement. Toutefois, l'introduction du service militaire obligatoire fait que toutes les guerres sont désormais, par définition, des guerres du peuple, et ceci entraîne bien vite des situations difficiles et même insolubles pour le droit classique de la guerre, celle d'une levée en masse plus ou moins improvisée, par exemple, ou celle des cordes volontaires ou des francs-tireurs. Nous y reviendrons. Quoi qu'il en soit, la guerre demeure limitée en principe, et le partisan reste en dehors de ses limites. Le partisan moderne n'attend de son ennemi ni justice ni grâce. Il s'est détourné de l'hostilité conventionnelle de la guerre domptée et limitée pour se transporter sur le plan d'une hostilité différente, qui est l'hostilité réelle, dont l'escalade de terrorisme en contre-terrorisme va jusqu'à l'extermination. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Russie, la Pologne, les Balkans, la France, l'Albanie, la Grèce et d'autres territoires devinrent le théâtre de guerre de ce type. Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre de partisans se poursuivit en Indochine, où le chef communiste vietnamien Ho Chi Minh et le vainqueur de Dien Bien Phu, le général Vo Nguyen Giap, l'organisèrent de manière particulièrement efficace contre l'armée coloniale française. Elle se poursuivit également en Malaisie, aux Philippines et en Algérie, à Chypre sous le commandement du colonel Grivas, et à Cuba sous Fidel Castro et Che Guevara. À cette heure, en 1962, les territoires indochinois du Laos et du Vietnam sont le domaine d'une guerre de partisans qui développe chaque jour des méthodes nouvelles propres à vaincre l'ennemi par la violence et par la ruse. La technique moderne fournit aussi bien aux partisans qu'aux forces armées régulières qui le combattent des armes et des moyens d'extermination de plus en plus puissants, des méthodes de transmission des nouvelles et des moyens de communication de plus en plus perfectionnés. Dans le cycle infernal du terrorisme et du contre-terrorisme, la lutte contre le partisan n'est souvent que l'image inversée du combat partisan lui-même, confirmant ainsi de façon répétée la justesse de la vieille formule que l'on cite fréquemment sous forme d'un ordre de Napoléon au général Lefebvre le 12 septembre 1813 « Il faut opérer en partisan partout où il y a des partisans ». Nous avons cité un premier caractère de cet ordre dès le début de notre exposé, en partant de la constatation que le partisan était un combattant irrégulier. Le caractère régulier se manifeste par l'uniforme du soldat, qui est plus qu'une tenue professionnelle, parce qu'il est la démonstration d'une certaine domination de la vie publique, et qu'avec l'uniforme, l'arme est, elle aussi, portée ouvertement et de façon ostensible. Le soldat ennemi en uniforme est la cible par excellence du partisan moderne. Un autre caractère distinctif qui s'impose aujourd'hui à notre attention est l'engagement politique intensif qui caractérise le partisan, de préférence à d'autres combattants. Ce caractère politique intensif du partisan est à retenir, ne serait-ce que parce qu'il est nécessaire de le distinguer d'un vulgaire bandit et criminel, dont les motivations sont orientées vers un enrichissement privé. Ce critère conceptuel, le caractère politique, a, dans l'ordre inverse, la même structure que chez le pirate du droit de guerre maritime, dont le concept inclut le caractère non politique de son activité néfaste, qui vise le vol et le gain privé. Il y a dans le pirate, selon les mots des juristes, l'animus furandi. Le partisan combat en s'alignant sur une politique, et c'est précisément le caractère politique de son action qui remet en évidence le sens originel du terme partisan. Ce terme, en effet, vient de parti et implique le rattachement à un parti ou un groupe combattant, belligérant ou politiquement actif, de quelque manière que ce soit. Ces liens avec un parti se font particulièrement solides aux époques révolutionnaires.
Alors l'extrait, ou plutôt les extraits qu'on vient d'entendre, sont issus de l'ouvrage de Carl Schmitt qui s'appelle « Théorie du partisan », qui est un ouvrage qui fait suite à deux conférences qu'avait donné Carl Schmitt en Espagne franquiste en 1962. Carl Schmitt, en fait, c'est pas particulièrement à première vue quelqu'un de sympathique, c'est un juriste, certains disent philosophe allemand, qui est né en 1888 et mort en 1985, qui était surtout, et c'est ça qui nous intéresse dans ce texte, théoricien du droit de la guerre. C'est un personnage qui a été un juriste important dans les dernières années de la République de Weimar et qui est surtout connu et décrié pour avoir participé au régime nazi de 1933-1936. En fait, il a plus ou moins continué à y participer, du moins passivement, parce qu'il a continué à être prof d'université après 1936, grâce à un sauvetage de son ami Göring. Mais en fait, il a été mis à ban du parti nazi parce qu'il semblerait que son antisémitisme n'était pas profond et sincère.
Et alors peut-être qu'il faut dire quelque chose du texte, donc la théorie du partisan.
La théorie du partisan, c'est une théorie du combattant partisan, c'est-à-dire qu'il est un combattant irrégulier, aux yeux de Schmitt, un combattant qui porte l'arme, mais pas visiblement, qui ne porte pas l'uniforme, et qui, en somme, défend son État, ou un État en devenir, ou qui se défend contre un oppresseur étranger dans une guerre anticolonialiste.
Voilà. Et donc, on a entendu cet extrait où Schmitt essaye de caractériser, en somme, de donner les caractéristiques principales de ce qu'est le partisan. Puis on a eu une idée un peu bizarre, vu la trajectoire politique de Schmitt, c'est d'associer ce texte à un autre texte dont il y a un extrait dans L'increvable anarchisme, le bouquin de Louis Mercier-Vega. C'est un texte d'un combattant de la colonne de fer qui est paru dans la publication périodique de la colonne de fer qui s'appelle Nosotros, qui s'appelait Nosotros. Et qui raconte le moment de la militarisation des groupes combattants pendant la guerre d'Espagne, donc entre 1936 et 1939. Guerre d'Espagne à propos de laquelle Schmitt avait une vision assez particulière.
Oui, effectivement, parce que la guerre d'Espagne, pour Schmitt, c'était une guerre nationale de libération contre le communisme international.
Voilà. Et donc, le texte de Thierry de Nosotros décrit le moment de la militarisation des groupes combattants, c'est-à-dire du choix stratégique qui est fait de centraliser les décisions militaires et de s'organiser comme une armée. Et c'est un choix qui, paradoxalement, va être assez mal vécu par un certain nombre de combattants, mais qui va être très largement respecté, et qui reste un paradoxe, puisque ce sont des anarchistes, la CNT et la FAI, qui décident de militariser un mouvement combattant.
Je suis un rescapé de San Miguel de los Reyes, prison sinistre que bâtit la monarchie pour enterrer vivants ceux qui, parce qu'ils n'étaient pas des lâches, ne se soumirent jamais aux lois infâmes que les puissants décrétèrent contre les opprimés. Ils m'emmenèrent là, comme tant d'autres, pour avoir lavé une injure, pour m'être rebellé contre les humiliations dont était victime un peuple tout entier, pour avoir tué, enfin, un cacique. J'étais jeune, et je le suis encore, puisque, entré en prison quand j'avais 23 ans, j'en suis sorti, quand les compagnons anarchistes ouvrirent les portes, à l'âge de 34 ans. 11 années, livré au tourment de ne pas être un homme, mais un objet, un numéro. D'autres prisonniers sortirent en même temps que moi, également souffrants, également endoloris, par les mauvais traitements subis depuis leur naissance. Les uns, dès qu'ils retrouvèrent la rue, s'enfuirent de par le monde. D'autres se joignirent à leurs libérateurs, qui nous traitèrent comme des amis et nous aimèrent comme des frères. Avec eux, peu à peu, nous formâmes la colonne de fer. Avec eux, rapidement, nous assaillîmes les casernes, désarmant les terribles gardiens. Avec eux, par poussée, nous rejetâmes les fascistes par-delà les crêtes des montagnes, là où ils se trouvent. Personne ou presque ne s'occupa de nous. La stupeur bourgeoise provoquée par notre libération est devenue la stupeur de tous. Et au lieu de s'intéresser à nous, de nous aider, de nous secourir, on nous a traités comme des bandits. On nous a accusés d'être des incontrôlés, parce que nous n'avons pas réglé le rythme de notre vie que nous voulions et voulons libre. Aux caprices stupides de certains qui, bêtement et orgueilleusement, se sont crus les maîtres du monde parce qu'ils sont assis dans un ministère ou dans un comité. Parce que, dans les villages traversés, que nous avons enlevés aux fascistes, nous avons changé le système de vie, liquidé de féroces caciques qui empoisonnaient l'existence des paysans après les avoir volés et mis la richesse entre les mains de ceux qui furent seuls à la créer, les travailleurs. Et le bourgeois, il y a des bourgeois de tout genre et en beaucoup d'endroits, tissait, avec les fils de la calomnie, la légende noire dont on nous a entourés. Car c'est aux bourgeois, et uniquement aux bourgeois, qu'ont pu et que peuvent encore porter préjudice nos activités, nos rébellions et cette envie folle, irrépressible, que nous avons au cœur, de vivre libres comme des aigles des cimes et des lions des forêts. Même des frères qui ont souffert avec nous dans les champs et dans les ateliers, qui furent vilement exploités par la bourgeoisie, se firent l'écho des craintes de celles-ci et finirent par croire, parce que certains candidats aux fonctions de chef le leur disaient, que nous, les hommes de la colonne de fer, étions des bandits et des sans-âme. Et la haine, qui a souvent conduit à la cruauté et à l'assassinat fanatique, à barrer notre chemin pour que nous ne puissions plus avancer contre le fascisme. Certaines nuits, ces nuits noires au cours desquelles, l'arme au poing et l'oreille attentive, j'essayais de pénétrer les profondeurs des champs et les mystères des choses, je n'avais d'autre solution, comme dans un cauchemar, que de me dresser sur le parapet, non pour me dégourdir les membres, qui sont d'acier tant ils ont été endurcis par la douleur, mais en poignant l'arme avec plus de rage, avec l'envie de tirer contre l'ennemi caché à moins de 100 mètres, mais aussi contre celui que je ne voyais pas, qui se cachait à mes côtés, qui m'appelait même camarade et me vendait vilement. Car il n'y a rien de plus lâche que cette trahison, et j'avais envie de pleurer et de rire à la fois, et de courir par les champs en criant, et de broyer des gorges comme je l'avais fait pour le cacique immonde, et de faire sauter jusqu'à ce qu'il n'en reste que des décombres, ce monde misérable dans lequel il est si difficile de trouver une main amie qui sèche ta sueur, essuie le sang de tes blessures quand tu reviens de la bataille. Mais un jour lourd et triste, venant au sommet de la montagne comme le vent de neige qui coupe les chairs, arriva la nouvelle. Il faut se militariser. Et la nouvelle me transperça comme un coup de poignard, et je souffris d'avance les angoisses d'aujourd'hui. Dans la nuit, au parapet, je me répétais la nouvelle. Il faut nous militariser. J'ai connu la caserne, et là, j'ai appris à haïr. J'ai été en prison où, chose curieuse, malgré les larmes et les souffrances, j'ai appris à aimer, et à aimer intensément. À la caserne, j'ai failli perdre ma personnalité tant était grande la rudesse avec laquelle on me traitait pour m'imposer une discipline stupide. En prison, à force de lutte, j'ai retrouvé ma personnalité, toujours plus rebelle à toute obligation. À la caserne, j'ai appris à haïr depuis le caporal jusqu'en haut, toutes les hiérarchies. En prison, j'ai appris à aimer tous les malheureux, mes frères, en conservant pure la haine des hiérarchies têtées à la caserne. Avec ce jugement, avec cette expérience, une expérience acquise, ma vie ayant été saturée de douleurs, Quand j'entendis, descendant de la montagne, l'ordre de militarisation, je ressentis pendant un moment comme un effondrement. Je vis clairement que le guerriero audacieux de la Révolution ferait vite place à l'être privé de tout attribut personnel par la caserne et la prison. Tomberait à nouveau dans le gouffre de l'obéissance, dans le somnambulisme animal à quoi conduit la discipline de la caserne ou de la prison, les deux étant égales. Pour nous, il n'y a jamais eu de relève, ni, ce qui est pire, une parole d'amitié. Les uns et les autres, fascistes et antifascistes, et même les nôtres, quelle honte nous en avons ressenti, nous ont traités avec dédain. On ne nous a pas compris. Ou peut-être, ce qui est plus tragique encore, nous ne nous sommes pas fait comprendre. Pour avoir subi tous les dédains et toutes les rigueurs de ceux qui furent des hiérarchiques dans la vie, nous avons voulu vivre, même dans la guerre, une vie libertaire. Les autres, pour leur malheur et pour le nôtre, continuaient d'être attelés au char de l'État. L'histoire qui recueille le bon et le mauvais de ce que font les hommes parlera un jour. Et cette histoire dira que la colonne de fer fut peut-être la seule en Espagne qui ait eu une vision claire de ce que devait être notre révolution. Elle dira aussi que ce fut elle qui offrit le plus de résistance à la militarisation. Et elle dira enfin que, parce qu'elle résistait, il y eut des moments où on l'abandonna totalement à son sort, en pleine bataille, comme si 6000 hommes, aguerris et disposés à vaincre ou à mourir, allaient s'abandonner à l'ennemi pour être dévorés. Combien de choses, dira l'histoire, et combien de figures qui se croient glorieuses seront exécrées et maudites. Notre résistance à la militarisation était fondée sur ce que nous savions des militaires. Notre résistance actuelle se fonde sur ce que nous savons d'eux maintenant. J'ai vu trembler de rage et de dégoût tel officier à qui je m'adressais en le tutoyant. Et je connais des caressons de bataillons qui se disent prolétariens, où les officiers, qui ont déjà oublié leurs humbles origines, ne peuvent admettre, il existe pour cela de durs châtiments, qu'un milicien les tutoie. Nous, dans les tranchées, nous vivions heureux. Personne n'était supérieur à personne. Tous amis, tous compagnons, tous guerrieros de la Révolution. Le délégué de groupe ou de centurie ne nous était pas imposé, mais élu par nous, et il ne se sentait ni lieutenant ni capitaine, mais compagnon. Les délégués des comités de la colonne ne furent jamais colonels ou généraux, mais des camarades. Nous mangeions ensemble, nous combattions ensemble, ensemble nous rions et nous jurions. Je ne sais comment nous vivrons maintenant. Je ne sais si nous pourrons nous habituer à entendre les injures du caporal, du sergent ou du lieutenant. Je ne sais si, après nous être sentis pleinement hommes, nous pourrons redevenir des animaux domestiques, ce à quoi conduisent la discipline et la militarisation. Mais le moment est grave. Pris dans une trappe, nous devons en sortir, nous en échapper. Le mieux que nous pourrons, car le terrain tout entier est semé de ses pièges. Les militaristes, tous les militaristes, il en existe de furieux dans notre camp, nous ont cernés. Hier, nous étions les maîtres de tout, aujourd'hui, ce sont eux. L'armée populaire formée par le peuple, ce fut toujours le cas, n'appartient pas au peuple. C'est l'armée du gouvernement. Et le gouvernement commande, et le gouvernement ordonne. Pris dans les mailles militaristes, nous avons deux chemins à suivre. Le premier nous conduit à désagréger cet ensemble formé de camarades de combat, à détruire la colonne de fer. Le second nous conduit à la militarisation. Cette colonne, la colonne de fer qui, de Valence à Teruel, a fait trembler les bourgeois et les fascistes, ne doit pas disparaître. Si nous détruisons la colonne, si nous nous désagrégeons, nous devrons aller ensuite obligatoirement mobiliser, non avec ceux que nous choisirons, mais avec ceux qu'on nous ordonnera de rejoindre. Et comme nous ne sommes pas, et nous ne voulons pas être des animaux domestiques, il est possible que nous nous heurtions avec qui nous ne devrions pas nous heurter, avec ceux qui, peu ou prou, sont nos alliés. La révolution, notre révolution prolétarienne et anarchiste pour laquelle, dès les premiers jours, nous avons offert de quoi écrire des pages de gloire, nous demande de ne pas abandonner les armes, de ne pas abandonner non plus le noyau compact que nous avons créé, qu'il s'appelle comme on voudra l'appeler, colonne, division ou bataillon.